Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Heymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vue! Oh, c'est magique, cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ah, ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie.
Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Ariane au micro et j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui Lucas qui va nous emmener faire un tour du monde en voilier à la quête de solutions plus durables. Salut Lucas, ça va ?
Salut Ariane, ça va super, merci toi.
Ben oui, ça va très bien, ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Pour recontextualiser un peu la chose, moi je t'ai rencontré à Bali et t'étais avec deux de tes potes sur un voilier. Ça faisait quand même pas mal de mois, ça faisait 6 mois hein, je crois que t'étais sur le voilier. Je vous voyais déjà un peu fatigué et j'ai même pas eu la faim, donc j'ai hâte qu'on inspire et qu'on fasse passer, je pense, le beau message qui a été fait à travers votre projet. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi la base de votre projet? Comment il s'appelle déjà?
Du coup, notre projet, il s'articule autour d'une association qui s'appelle JYBE, J-Y-B-E. Et en fait, on est tout bêtement 3 amis d'enfance. On s'est rencontrés dans la région toulousaine au collège. Et petit à petit, la vie a fait que on s'est plus ou moins séparés géographiquement, mais on a toujours gardé ce lien et toujours eu envie de partager plein d'aventures ensemble. Et au bout d'un moment, Emilien, après avoir voyagé pas mal avec Léo sur les côtes croates en canoë, s'est dit en fait, on a peut-être une grosse aventure, un gros voyage à imaginer ensemble. Et
okay.
Du coup, en discutant avec Léo, puis en me le partageant, on a co-construit cette aventure JYBE dont j'aurai l'honneur de parler aujourd'hui avec toi.
Donc ok, Léo, Emilien et toi Lucas, vous vous dites là, on a un projet fou entre amis. C'est quoi du coup? Vraiment, comment c'est quoi le fond du projet?
Ouais, ben en fait, dès le départ, il y a cette idée de faire le tour du monde et de le faire de la manière la plus sobre possible. Parce qu'en fait, derrière cette démarche de voyage, on a une démarche environnementale assez forte où on veut vraiment donner du sens au voyage. Et je t'avoue qu'au départ, on n'est pas certain de la manière dont on va pouvoir organiser tout ça. On ne sait pas qu'on va créer une association, on ne sait pas véritablement les missions qu'elle va avoir. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'on ne veut pas voyager de manière traditionnelle en prenant l'avion et en faisant pays par pays. On a vraiment envie d'avoir l'impact le plus faible possible. Et rapidement, le voilier prend tout son sens.
Mais attends, t'avais déjà fait toi du voilier? Vous étiez trois copains, vous saviez naviguer, vous étiez skipper?
Alors, c'est une des particularités du projet déjà, c'est que sur les trois copains, donc Emilien et Léo, il y avait qu'Emilien qui savait naviguer.
Donc, putain.
Voilà. Oh putain. Ça commence sur une particularité assez forte. Et du coup, ouais, Emilien qui lui navigue depuis qu'il est tout petit. Il a depuis son plus jeune âge eu la possibilité de le faire et donc il est marin. Et ensuite, il s'est professionnalisé un petit peu plus sur le domaine en pratiquant beaucoup plus régulièrement dans des équipages de plus en plus professionnels du côté de Marseille.
Et okay.
En étant chapeauté par Dimitri de Ruel, champion olympique de voile, il a pu vraiment gagner en niveau Et petit à petit, il nous dit, il va falloir qu'on se fasse une petite aventure en allant à Sardaigne au moins pour voir si déjà vous pouvez tenir sur un bateau quand même un minimum.
Ouais, donc, si jamais vous galérez pas trop, parce que vous n'alliez pas vous jeter en pleine mer non plus, parce que c'est super dangereux quand même, j'imagine. Voilà.
Il y a déjà ça, ouais, effectivement, mais du coup, il y a cette nécessité vraiment d'avoir cette première expérience en partant de Toulon jusqu'en Sardaigne avec un tout petit bateau qui est un J80 pour les connaisseurs, donc c'est un bateau qui est vraiment tout petit.
Ouais, c'est quoi, quand tu dis tout petit, ça fait combien de mètres? Parce que moi, je suis nul en bateau, alors...
Ça fait moins de 10 mètres, hein. Ça fait moins de 10 mètres, donc c'est vraiment pas adapté, si tu veux, pour... voilà, il n'y a pas de couchette, hein, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dedans, quoi. C'est vraiment...
Attends, pause. Comment... Mais il n'y a pas de couchette, mais là...
C'est comment ça? Si tu veux, c'est un bateau qui est fait pour la régate, donc pour la compétition, donc qui est le plus léger possible. Donc à l'intérieur, il n'y a pas, de matelas, il y a rien du tout. Donc pour la petite anecdote, voilà, on dormait à l'intérieur sur le dur, j'ai envie de dire.
Mais t'avais un matelas. Comme le camping. Rien du tout.
Voilà.
Oh putain.
Matelas à la dure et on est parti 3 semaines. On est parti 3 semaines comme ça. Jusqu'en Sardaigne, voilà. Et là déjà, ça nous a mis dans le grand bain entre guillemets, tout en restant en Méditerranée. Mais déjà, on a pu éprouver notre amitié, notre groupe dans un contexte aussi compliqué en fait, hein, tout simplement parce que voilà, il y a cette beauté du voyage, mais bon, il y a quand même aussi des difficultés et cette capacité à gérer en groupe des situations qui peuvent être un peu plus compliquées.
Bah, c'est ce que j'allais te dire en vrai, hein, parce que c'est quand même un risque, c'est un peu comme en coloc. Moi, ça me fait penser quand tu prends un coloc en vrai de vrai. C'est-à-dire que c'est cool, tu vas vivre avec tes copains, mais il y a toujours un risque si ça se passe pas bien, puis tu es sur un bateau au milieu de la mer, c'est-à-dire que tu vas pas en jeter un par-dessus bord si t'en as marre, quoi.
Ouais, quand t'es sur un bateau, tu dois de toute façon faire en sorte que ça fonctionne. Donc, il faut.
Qu'est-ce que vous aviez mis en place?
Ben en fait au départ pas grand chose, c'est ça qui est assez fou, c'est que voilà, sur cette première expédition, hein, jusqu'en Sardaigne, c'était assez tranquille parce que c'était de la découverte, justement c'était être capable de voir si comme ça déjà on arrivait à fonctionner. Et puis après, par contre, pour le tour du monde, c'est un petit peu différent parce que il y a quand même voilà des sensibilités, des émotions, et il faut en fait se connaître pour arriver à comprendre quand une personne a besoin d'un peu plus d'espace, par exemple, ou voilà, tout simplement être capable de bien connaître son équipage, ses amis, pour en fait faire en sorte que ce voyage fonctionne. Et je pense que nous, ça a été vraiment la clé, c'est qu'on se connaissait depuis longtemps avant de partir, quoi. Vraiment, on se connaissait.
Ouais, la communication était la clé, et en plus, la confiance, ça fait tout, quoi. Genre, vous aviez vraiment, vous êtes meilleurs amis, donc forcément, au moins, vous avez des liens. C'était essentiel pour toi, quoi.
Ouais, là, c'est la recette, ouais.
D'accord, ok. Et du coup, alors voilà, vous avez fait vos 3 semaines. Ça s'est bien passé, alors que vous étiez déjà dans le dur, hein. Vous vous êtes mis dans le mal tout de suite, vous.
Ouais, on a eu la chance en partant de Toulon d'avoir des conditions totalement exceptionnelles, et donc faire du 20 nœuds avec le bateau, donc ça, il faisait super beau, et la particularité supplémentaire, c'est qu'on embarquait avec nous deux personnes qui faisaient en fait du co-bâturage, donc qui partaient pareil de la métropole et qui contre 15 euros, je crois, de mémoire, traversaient avec nous. Et en fait, ils traversaient avec des personnes qui ne savaient absolument pas naviguer, mis à part Emilien.
Oh, putain.
Donc, eux, je pense qu'ils sont encore plus fous que nous. Petite pensée à eux. Mais bon, tout s'est bien passé, hein, malgré une personne avec pour qui ça a été un petit peu plus difficile, parce qu'il a passé 20 heures à vomir quasiment. Mais bon, après on les a déposés à Ajaccio, ils avaient le sourire et ils étaient arrivés à bon port, donc c'est le principal. Voilà.
Mais c'est beau, d'accord. Donc vous êtes dans le partage et dans comme donner du sens jusqu'au bout, quoi. C'est déjà en plus, vous n'utilisez pas de moteur ou quoi que ce soit, mais en plus si vous pouvez aider des gens à faire un trajet de façon écologique et très économique. On parle de 15 balles pour faire. Tu m'as dit quoi, Toulon
jusqu'à Ajaccio. Hein.
Jusqu'à Ajaccio. Ah oui, 15 balles.
Mais 15 euros, on compte, y a le repas aussi. Hein. Donc c'est juste une participation au repas, quoi. Voilà, c'est pas, on fait rien payer, quoi. C'est juste une participation. Et ouais, c'est, en fait, c'est pas de la communication, quoi. Vraiment, avec nous, c'est l'essence même de ce qu'on fait dès le départ. C'est, voilà, donner du sens à tout ce qu'on fait, essayer de voyager avec le moins d'impact possible et surtout bah, partager des bons moments aussi entre êtres humains. Ça, c'est hyper important, quoi.
Bah ouais. Ok, alors. Imagine, hein, ça y est, on est le jour 1, vous partez d'où pour votre tour du monde ?
Alors, on est le jour 1, donc on arrive en fait en octobre, après quasiment 2 années de rénovation d'un bateau qu'on nous a donné, parce que c'est quand même aussi la particularité de ce projet, c'est que le bateau, le voilier avec lequel on part, il nous a été légué par un constructeur amateur de La Ciotat. Donc cet homme qui l'a au départ construit pour faire le tour du monde et qui, par les aléas de la vie, n'a pas pu le faire, a décidé de nous le donner 2 ans auparavant, donc voilà, sur les coups de 2019.
En fait, le mec a été tellement, on s'est dit, votre projet est ouf, ouais. Moi, ma façon de m'impliquer, c'est je vous donne mon bateau, quoi.
Voilà, en fait.
Mais il faut le rénover.
Voilà, Emilien, par le réseau de son école, avait une connaissance qui connaissait cette personne, etc. Et en fait, au final, ils nous ont rencontré Emilien, ils se sont dit, super, votre projet nous intéresse, il est top, on vous le lègue pour 1 euro symbolique, ce bateau. Et donc ensuite, nous, c'était parti pour 1 an et demi de rénovation, où Emilien a vraiment, vraiment passé énormément de temps sur le bateau, et le Covid l'a aussi beaucoup aidé, puisqu'il a pu, du coup, être sur le bateau pour bosser dessus. Voilà, grosse rénovation, parce qu'il y avait besoin, hein, le bateau était en bon état général, mais voilà, besoin de le réadapter et surtout de le préparer à un tour du monde, parce que voilà, entre une navigation en Méditerranée et un tour du monde, le bateau, il a besoin d'être équipé un petit peu différemment. Voilà, c'est comme un camping-car pour le week-end, ou si on part faire le tour de l'Europe, forcément, il y a des adaptations à trouver.
Il faut le remettre dans le contexte, c'est-à-dire que vous mettez votre vie quand même en danger, donc bien sûr qu'il faut que le bateau soit nickel chrome, quoi. Parle d'un tour du monde. Ouais. D'accord. Pour revenir
à ta question, du coup, on part de La Ciotat en octobre 2021 et on part le 5 octobre, du port de La Ciotat. Et là, à partir de ce moment-là, on met nos vestes, nos 2 quarts, on quitte le pont, on fait ce dernier pas entre le pont et le bateau. On enlève les amarres et là on se dit c'est parti tout simplement.
Mais comment tu te sens à ce moment-là, quoi? Toi qui as jamais navigué, t'as navigué tes 3 semaines de formation. Comment tu te sens là? Ça y est, t'as jeté l'ancre, c'est parti. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps?
C'est beaucoup d'émotions parce que avant d'en arriver là, il y a beaucoup de travail autour de cette association. On en reparlera sûrement, mais voilà. Comprendre vraiment les missions, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, plus ensuite le travail sur ce bateau pour qu'il soit prêt au bon moment, parce qu'on terminait nos études. Donc, début octobre, voilà, on finalisait nos études avec Léo et Emilien. Donc, tous les 3 diplômés, fallait qu'on parte fin septembre, début octobre. Donc, le planning était tenu. Et voilà, on s'est dit, c'est parfait, quoi. On part, c'est génial.
Pourtant, c'est une belle façon de célébrer tes diplômes, ouais, en effet, enfin, vos diplômes, mais est-ce que je me mets à ta place, mais c'est tellement dur, est-ce que t'avais peur, mais en même temps t'étais excitée, enfin, dans le sens où t'avais hâte, mais tu me dis, mais peut-être que je vais mourir, je vais jamais revenir, enfin, comment vraiment, tu te sens, tu vois, à ce moment-là?
Il y a vraiment l'excitation du projet, en fait, qui porte vraiment ces missions-là, de partager les modes de vie et les techniques soutenables, de rencontrer des personnes incroyables autour du monde qui, déjà au quotidien, ont des méthodes et des modes de vie qui sont simplement inspirants et qu'on a envie d'aller questionner, échanger avec eux, et puis partager tout ça sur nos réseaux sociaux, nos sites internet, et puis le montrer à notre communauté, les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et donc il y a beaucoup d'émotions parce que c'est le départ de tout ça et on sait pas vraiment dans quoi est-ce qu'on se lance. Il y a cette peur de pas être au niveau aussi, de se dire est-ce que je vais arriver à gérer ce bateau, à gérer l'équipage et surtout en sécurité, ramener tout le monde, parce que voilà, quand on quitte le port à ce moment-là, on quitte aussi nos familles et c'est des amis d'enfance, donc la famille de l'un et de l'autre, on les connaît, on connaît nos familles respectives. Et donc, il y a aussi cet engagement, ce pacte de se dire, ben, on va ramener tout le monde. Et ça, c'est ça qui est important. Et quand on part sans avoir cette expérience, on part face à un océan d'incertitude. Mais par contre, on a cette mission et cette envie de réussir. Et donc, en apprenant sur le tas, finalement, on arrive à
de
belles choses.
Et du coup, mais est-ce que toi, c'est la première fois que t'es sorti autant de ta zone de confort ?
Oui, à ce point-là, quand même, c'est...
Là, tu sautes dans l'inconnu, quand même, hein, total.
Je pars à 24 ans en tour du monde sur un bateau. J'ai quasiment pas fait de bateau de ma vie. Je sors vraiment de ma zone de confort. Ouais, c'est clair. C'est vraiment à ce moment-là où c'est il faut assumer.
Plus le droit à l'erreur là quand même.
Et pourtant quelques heures plus tard après le départ, il se passe beaucoup de choses.
Mais là, vous mettez le cap vers où là déjà ? Alors, vous partez de la Ciotat, vous allez où ?
Exactement. Bah du coup, l'objectif c'est de rejoindre le détroit de Gibraltar, donc entre du coup l'Espagne et le Maroc. Et on va tout simplement se diriger vers les îles Canaries. C'est l'objectif. Mais on se rend compte très rapidement qu'il va y avoir un petit problème au bout de quelques heures de navigation.
Ah ouais, c'est quoi ?
On tombe dans une tempête, en fait, tout simplement, au bout des premières heures de navigation. Donc là, vraiment, gros coup dur pour l'équipage.
Mais c'était pas prévu ? Parce que je m'imagine que vous avez des petits trucs météo un peu, non ?
Alors, en fait, on part excité, avec beaucoup d'impatience, et sans véritablement connaître les performances de notre bateau non plus. Donc on se dit, en regardant la météo, qu'il y a un bon coup de vent qui va passer, mais on pourra probablement l'éviter avec la vitesse de notre bateau. Et en fait, pas du tout, parce que notre bateau est lent, on le connaît pas, on s'est pas barré tous les trois. Donc il y a que Emilien qui est totalement autonome sur le bateau à ce moment-là, et encore, il faut décrire le bateau, donc c'est pas non plus à 100%. Et en fait, très rapidement, on est au milieu de conditions qui sont très compliquées. On a des rafales à 100 km/h. On commence à avoir la casse sur le bateau. Et à ce moment-là, il y a beaucoup, je vais pas dire d'inquiétude, mais parce qu'en fait, on a aussi du mal à se rendre compte véritablement de ce dans quoi on est, parce qu'on connaît pas, en fait, avec Léo. On se dit, bon, la situation est peut-être un peu critique, mais est-ce qu'on est loin des limites du bateau ou pas? Vu qu'on connaît pas, on est juste là à écouter et à faire ce que nous dit Emilien. Allez à l'avant du bateau, affalez cette voile, faites ci, faites ça. On est dans le froid,
Lucas,
de nuit, nos frontales, nos vestes, on prend des vagues, on est trempé. Et avec notre gilet bien attaché au bateau, à notre ligne de vie, on va faire les manœuvres avec le peu de dextérité qu'on a au départ, parce qu'on apprend, hein, tout simplement, mais dans des conditions horribles. Et donc nécessairement, il faut assumer.
D'accord, t'es dans ce truc, il y a une tempête, donc t'es en totale panique, vous êtes tous les trois. Ça va prendre combien de temps, en fait, cette tempête ?
Ben, en fait, la tempête, elle va durer, une dizaine d'heures. Et en fait, dans cette tempête, on va rester soudés, mais on va avoir des problèmes sur le bateau avec du matériel qui casse et qui commence véritablement dans la matinée à nous mettre en danger. Et donc, alors moi, je suis vraiment mal parce qu'il faut savoir que je suis aussi diabétique de type 1 pour rajouter à tout ça.
Ah, tu te sens pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire moi, j'avoue que je sais pas, je connais le diabète dans les grands mots, mais je sais pas. Ça veut dire que tu peux faire un malaise à tout moment?
C'est-à-dire que, en fait, en plus d'avoir la gestion de devoir survivre, je me dis qu'il faut aussi que je surveille ce paramètre-là, qui est le diabète. Mon taux de sucre dans le sang, etc. Et dans ce type de conditions-là, ça devient très vite compliqué parce qu'on est dans un bateau qui gîte énormément et simplement attraper un stylo dans le bateau, par exemple, c'est une épreuve, en fait. Donc il faut avoir la tête sur les épaules, et la personne qui est à la barre, qui est donc Emilien, ça fait plusieurs heures qu'il est à la barre, il lutte avec ce qui reste du bateau pour arriver à rester en sécurité. Et à ce moment-là, on se dit qu'il est peut-être temps d'appeler les secours, parce qu'on va pas arriver au bout, quoi.
Donc t'es diabétique, donc toi tu dois gérer 20 000 choses en fait. T'es vraiment entre la vie et la mort, quoi. Dès le premier jour, faut quand même résumer, vous avez même pas fait 24 heures, les garçons, là.
Ouais, à ce moment-là, il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur aussi, mais en même temps, il faut rester focus. Et Emilien, le capitaine, elle a vraiment la tête sur les épaules et nous dit véritablement ce qu'on doit faire. Donc, on sait quand on a la possibilité d'aller se reposer, on sait quand il faut qu'on soit sur le pont. Et à ce moment-là, je le regarde et puis je lui dis bon, il serait peut-être temps d'appeler les secours à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on fait, hein, finalement, parce que le bateau, il devient incontrôlable et ça devient véritablement dangereux pour nos vies. Donc, à ce moment-là, c'est la matinée, deuxième jour, et je prends la radio et puis je fais un appel de détresse, un appel panne-panne, en expliquant voilà qu'on est trois sur un voilier avec des problèmes de manœuvrabilité et qu'on a besoin d'un remorquage. Et donc, à ce moment-là... À ce moment-là, il y a le CROSS qui s'appelle, donc qui sont les opérateurs radio qui s'occupent du coup de ce type d'urgence, qui nous redirigent vers les secouristes espagnols qui prennent le relais et qui arriveront une dizaine d'heures plus tard à notre rencontre en nous jetant une grosse corde, une grosse amarre, et que Léo récupérera à la proue du bateau, et on va se faire tracter pareil pendant quasiment 10 heures, jusqu'à Palamos, donc au nord de Barcelone. Et là-bas, du coup, le bateau sera mis au port, et puis moi, je vais passer la soirée vraiment mal, jusqu'à ce que, dans la nuit, on décide de me porter à l'hôpital, puisque véritablement, mon état de santé s'était dégradé, et j'avais besoin, en fait, de réhydratation, et surtout de regérer mon diabète comme il faut. Et donc, dès les premières heures de navigation, les premières heures tout court du voyage, il s'est déjà passé beaucoup de choses.
Ah la vache! Alors, donc là, t'es à l'hôpital. Là, on se dit que t'es à l'hôpital, à côté de Barcelone, alors que tu devais être quand même aux îles Canaries, c'est bien ça?
Plus au sud, on devait déjà être en route vers le détroit de Gibraltar.
Voilà. Et du coup, là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, j'abandonne, c'est mort. Enfin, je vais pas non plus mourir pour un tour du monde avec les copains et un beau projet derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, en fait, il y a pas d'interrogation sur est-ce que on va arrêter ou pas le projet. Dans ma tête, c'est clair. On a tellement donné. Et on vient de se lancer que ça va pas m'arrêter, quoi. Je me dis là, même ça m'arrêtera pas.
Donc l'abandon est impossible, on n'y pense même pas. C'est même pas une option, c'est go, tant pis, on y retourne, quoi.
Ça paraît un peu gros dit comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est même pas dans notre tête, quoi. On se dit même pas que l'abandon est possible. Et voilà, Emilien nous en parlera plus tard, enfin nous en a parlé par la suite, et il nous a dit, mais à ce moment-là, j'ai eu peur que, vous soyez effrayé et que vous vouliez pas continuer non plus l'aventure. Et en fait, ça n'a pas été le cas. On a pris vraiment un gros coup de stress. Et pendant une bonne semaine ensuite, on s'est rétabli chacun. Et aussi, on a pu remettre en état le bateau. Parce que l'avantage aussi, et on en tire après du positif, c'est que en fait, très rapidement, tout ce qui devait casser sur le bateau, toutes les parties qui étaient un petit peu fragiles, en fait tout a cassé très rapidement, parce que dans ces conditions-là, tous les éléments fragiles se sont cassés, et donc ça a mis en évidence tous les points qui étaient à remplacer et à retravailler. Donc ça a été aussi une sorte de leçon express, un petit peu brutale, on va dire, mais en tout cas on est reparti avec un bateau beaucoup plus sûr, et on est reparti sur un rythme aussi beaucoup plus tranquille pour justement prendre le temps surtout d'apprendre de nos erreurs et aussi d'apprendre à naviguer avec ce bateau qu'on connaissait pas en fait. Hein.
D'accord, ok. Donc comme tu dis, c'est un peu, vous avez pris un peu plus d'élan pour mieux sauter finalement. C'est bien, vous avez vu les choses de façon positive, j'ai l'impression.
On a essayé de le tourner comme ça. Ouais.
Donc là, vous êtes reparti vers le détroit de Gibraltar.
Voilà. Donc là, on reprend la mer et en fait, on décide de pas tirer tout droit, de ne pas aller directement vers le détroit de Gibraltar, mais on se dit plutôt, écoutez, on va prendre le temps, les gars, de se le faire petit à petit, de se poser de temps en temps au port. Et en fait, ça va être la seule fois du voyage où on va faire autant d'escales dans un même pays. Pour en fait apprendre tout simplement à naviguer ce bateau, à manœuvrer aussi dans les ports, et puis à prendre confiance en fait dans ce bateau, dans l'équipage et puis en nous surtout. Et finalement, ben, c'est une bonne expérience. Voilà, ça peut être traumatisant, mais en fait, on en a tiré du positif. Donc, avec le recul, on avait besoin de passer par là.
Donc, le temps, vraiment, en fait, de prendre le temps, même si vous êtes excité, vous vous dites, ouais, j'ai envie de faire ça, 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 vraiment prendre le temps de bien faire les choses, finalement, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, on a aussi cette contrainte de la météo. On a en fait, un planning qui est défini avant qu'on parte, en se disant, on peut passer tant de temps dans ce pays. Il nous faut mettre à peu près tant de temps pour faire cette traversée de l'océan Atlantique, tant de temps pour faire cette traversée de l'océan Pacifique. Et en fait, on a des échéances qui sont définies. Et ces échéances, elles sont surtout calées sur deux paramètres. Le premier, c'est le temps qu'on a besoin pour faire nos recherches dans nos escales. Et le second paramètre, et qui est le plus important, c'est les conditions climatiques. Parce qu'en fait, il y a des moments pour passer l'océan Atlantique, par exemple, où on peut profiter des vents des alizés, qu'on appelle, qui sont des vents qui se lancent du continent africain et qui amènent jusqu'aux Antilles. Et en profitant des alizés, on a un vent qui est propice à traverser l'océan Atlantique avec des conditions un petit peu plus aisées et qui nous permettent de le faire dans un temps plus raccourci. Donc tous ces paramètres-là, ils sont à prendre en compte. Et quand on voyage, on se bat contre la montre. Et c'est pour ça qu'au départ, on voulait avancer assez vite en passant ce détroit de Gibraltar. Et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, finalement, on allait arriver nulle part. Donc il valait mieux prendre un peu plus le temps, sachant que le planning avait été créé avec un petit peu de marge. Donc on a rongé sur cette marge, mais on a appris. Et ça nous a permis d'arriver à bon port.
Mais attends, là, je me dis un truc. Parce que, ok, donc écologique, voilier, donc pas de kérosène et tout ça, mais pause. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, moi, vous avez quand même un moteur. C'est quoi le plan B quand même, je suis en train de me dire. Parce que j'imagine bien que vous avez pensé à un plan A, un plan B, un plan C quand même.
Ouais, comme tu dis, il y a quand il y a pas de vent, effectivement, ça, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on a à bord du bateau un téléphone satellite qui nous permet en fait principalement de récupérer des données météo, en plus aussi de nous laisser la possibilité d'en envoyer des mails à nos proches. Et quand on récupère ces données météo, ce qui va être important pour nous de surveiller, bien évidemment, c'est l'arrivée du vent. Et du coup, si on voit qu'on est dans une pétole, ce qu'on va appeler quand on n'a pas de vent, et que ça va durer plusieurs jours, on va en fait calculer la possibilité soit d'attendre que ce coup de pas de vent passe, ou on se dit on va démarrer notre moteur qui nous sert normalement pour les manœuvres, pour en fait prendre un petit peu d'avance et peut-être aller récupérer du vent un peu plus loin. Et c'est vrai que il nous est arrivé à certains moments, et notamment dans l'océan Atlantique, lors de notre première transatlantique, de devoir démarrer le moteur à certains moments parce que on tombait dans des zones où il n'y avait pas de vent qui était prévu sur une semaine, 10 jours. Et donc à ce moment-là, ça a de gros, ça peut avoir un gros impact sur nous, puisqu'on a une autonomie en termes de vivres et d'eau à bord du bateau qui est limitée. Et donc il y a un moment où il faut qu'on avance, parce que si on n'avance pas, on va tout simplement soit mourir de faim, soit de soif. Donc voilà, c'est pour ça que le moteur doit aussi fonctionner par moment.
Et donc vous êtes aussi également totalement dépendant de la nature en fait, c'est ça aussi, hein. Mais c'est beau, mais c'est totalement risqué, vous êtes des grands fous quand même, hein. Mais vous respectez la nature, quoi.
Ouais, comme tous les navigateurs depuis des millénaires le font très bien. Avec le vent, il y a effectivement ce risque-là, mais par contre, voilà, on a aujourd'hui la chance d'avoir des outils avec Internet, avec ces téléphones satellites, qui nous permettent d'avoir une visibilité sur l'avenir, qui n'est pas toujours certaine, hein, parce que les conditions météo sont pas toujours exactes. Mais en tout cas, voilà, si on a un gros coup de vent, une tempête ou quoi que ce soit qui est annoncé, ben ça nous permet d'anticiper. Et à l'inverse, s'il y a pas de vent aussi, ça nous permet de nous dire bon, ben il va falloir mettre un petit coup de moteur pour avancer, parce que sinon, les gars, vous allez rester là et c'est pas bon pour vous.
Ah ouais. Et alors du coup là, est-ce qu'on est au détroit de Gibraltar là ou pas ?
À ce moment-là, on va avancer un petit peu. On est au détroit de Gibraltar. On descend le Maroc. Et puis on va faire une première escale hors de l'Europe. On va essayer d'aller à Essaouira au Maroc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a des livres en fait à bord du bateau, Jimmy Corwell par exemple, qui sont des routes de grande voyage, ça s'appelle, de grande croisière, pardon, qui est en fait un livre d'un grand navigateur qui recense les différentes escales qu'il a pu faire. Et il y a notamment une page sur Essaouira au Maroc, où ben voilà, il dit que c'est un port qui permet d'arriver et que le village est magnifique. Et à ce moment-là, il faut savoir que, en fait, en France métropolitaine, on quitte un petit peu le Covid, ça sort un petit peu des esprits, ça se libère, on a le droit d'aller au restaurant, les terrasses commencent à réouvrir. Et en fait, au Maroc, c'est pas la même histoire. Et donc, nous, on arrive, on pose le pied à terre dans un port qui est un port de pêche, donc il y a absolument rien qui est adapté pour l'arrivée d'un voilier. Même eux, quand ils nous voient arriver, ils ont des yeux comme ça et ils se disent « mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font là ?» Et en fait, on se met à côté d'un énorme bateau de pêche et on s'attache à lui, hein, on s'amarre sur le côté. Et en fait, on escalade de bateau de pêche en bateau de pêche et on arrive jusqu'au quai. Et on commence à marcher vers la capitainerie, comme on fait à chaque fois quand on arrive dans un port pour se présenter et faire les papiers d'entrée dans le pays. Et en fait, en arrivant, le type nous regarde et nous dit « mais attendez, vous n'avez rien à faire là. Vous savez pas que les frontières sont fermées ?» Et donc, à ce moment-là, ça commence à se compliquer un petit peu pour nous, parce qu'il commence à appeler la police, ensuite la gendarmerie royale, etc. Et ça commence à monter un petit peu. Et donc nous, on se dit bon, c'est pas une bonne idée, on va essayer de partir en fait, tout simplement. Et finalement, ça se passe assez bien. Il nous explique qu'on peut rester au mouillage la nuit à côté, face au village, et qu'il faudra repartir le lendemain matin, par contre. Donc au final, ça se passe assez bien, mais bon, on aura pas pu visiter le Maroc.
D'accord, donc il y a quand même un peu, il y a un peu d'humanité, quoi. Ils te disent bon, on va pas vous laisser galérer voilà. Non plus.
Voilà. Ils ont compris qu'on n'avait rien compris.
Ah mais moi j'ai chaud pour vous en fait. Je m'imagine dans ce bateau, je sais pas ce que je fais en fait. Ok, et là. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que du coup, on revient quand même au projet où il y a quand même un thème de biodiversité derrière, de trouver des solutions durables. Qu'est-ce que vous avez prévu là ? Vous aviez prévu d'aller au Maroc, ok. Est-ce que vous aviez des contacts ? Comment vous comptiez faire vos premières recherches ?
Ouais, bah écoute, c'est une super question. Alors, nous, nos recherches, ce qu'on s'était dit dès le départ, c'est qu'on voulait travailler sur 4 grandes thématiques qui étaient donc l'agriculture, la culture, l'habitat durable et la biodiversité. Et en fait, ces 4 thématiques, on les a soit construites par nous-mêmes ou soit co-construites avec des partenaires. Et ça a été le cas pour l'agriculture qui était notre première thématique. Et ce qui intéressait notre partenaire sur cette thématique de l'agriculture, c'était d'aller voir les adaptations que trouvaient les agriculteurs en milieu insulaire, donc en Martinique notamment. Et donc notre premier sujet de recherche a été en fait l'agriculture en Martinique. Voilà. Donc au Maroc à ce moment-là, on n'a pas de sujet de recherche. Ce qu'on fait en fait à ce moment-là, c'est qu'on apprend véritablement à naviguer ensemble, et on est en train de former cet équipage, hein, tout simplement, avant de démarrer une première grande étape de navigation que va être la transatlantique, donc traverser l'océan Atlantique.
Ah, juste ça. D'accord. Et du coup, ok, donc là, vous allez quitter le Maroc pour aller directement en Guadeloupe, c'est ça que je comprends ? Ou en Martinique ?
Alors non, avant d'arriver aux Antilles, on va passer par les Canaries, et c'est vraiment le point où on se retrouve, en fait, les navigateurs avant de se lancer dans cette transatlantique, c'est toujours aux Canaries. Et là-bas, ben, on va avoir un peu de temps pour aussi nous ressourcer, récupérer de l'énergie, et puis aussi, ben, du coup, équiper véritablement, avitailler notre bateau, donc aller récupérer de la nourriture et tout ce dont on a besoin pour cette première grande navigation, sans véritablement savoir exactement ce dont on a besoin, parce qu'on n'a pas cette expérience-là encore. Donc Léo calcule nos apports, la différence entre nos apports caloriques, l'effort et voilà ce qu'on va avoir besoin d'ingurgiter. Et en fonction de ça, on fait des courses avec toujours beaucoup de marge. Et puis finalement, voilà, il y a un moment où on décide de partir. Et là, effectivement, c'est le début d'une nouvelle aventure. Quand on part pour le début de cette transatlantique, c'est beaucoup d'émotions encore.
Mais je reviens là, voilà, sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange sur un bateau? Parce que c'est des conserves. Il faut des choses qui se conservent beaucoup, du coup. Je suppose qu'il y a des conserves, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'on mange sur un bateau, du coup? Qu'est-ce que vous avez préparé?
Mais en fait, sur le bateau, ce qu'on essaie de faire, c'est au départ d'avoir un maximum de produits frais. Alors, on a un tout petit frigo. Enfin, on avait un tout petit frigo dans le bateau qui nous permettait effectivement de stocker un minimum de viande ou voilà de produits un peu plus sensibles à la température. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que au départ, on prenait des légumes un peu au hasard. On mettait tout ça dans le bateau, dans des filets. Et puisque ça se balance, et les légumes, il faut pas qu'ils s'abîment aussi entre eux. Donc quand le bateau se balance, gîte, et que les légumes viennent se taper entre eux et qu'ils s'abîment et qu'ils sont complètement défoncés, ça devient vite un problème parce qu'on perd de la nourriture. Donc voilà, au bout d'un moment, on s'améliore aussi sur la gestion de la nourriture à bord du bateau. On commence après à choisir des légumes, selon le temps qui peuvent survivre en fait tout simplement et on apprend tout simplement. Donc au départ on prend des légumes et du frais, et puis après on a un grand stock de conserves et on mange des féculents à tous les repas, donc que ce soit lentilles, riz, voilà, on essaie d'avoir le maximum d'apport calorique avec le peu de place et d'efforts aussi qu'on effectue dans la journée. Donc voilà, tout est calculé, on mange l'équivalent, oui. pour donner une image, on mange l'équivalent d'un bol à chaque repas. Donc on mange le matin, on se fait un petit déjeuner où on mange des biscuits secs ou un fruit. Ensuite, pour le déjeuner et pour le dîner le soir, on mange toujours un bol avec du riz, souvent revenu avec de la ratatouille par exemple ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez contenu comme quantité, il y a pas grand chose, mais c'est suffisant à ce moment-là. Et le soir, à chaque fois, on a cette petite manie de s'ouvrir quand même une petite boîte de pâté pour se faire plaisir, et ça permet aussi d'ouvrir les discussions et puis aussi d'avoir des sourires au repas. Ça fait toujours plaisir, faut pas oublier de se faire plaisir quand même.
C'est clair, quand même une petite bière quand même au passage, non? Vous faisiez l'apéro un peu?
Et non, pas d'alcool.
Ah la vache.
Pas d'alcool à bord du bateau.
Ok.
Non, on faisait gaffe vachement à ça quand même, sachant qu'encore là, on était au début du voyage, donc vachement vigilant par rapport à ça, et encore cette concentration véritablement pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc on a quand même évité, même la petite bière, on l'a évité, on a préféré ne pas en prendre. Et,
ah ouais, voilà. Rigueur jusqu'au bout, je comprends.
On se rattrapait dès qu'on arrivait, dès qu'on posait pied à terre.
Ok, et du coup, ok, donc là vous vous lancez, ça y est, vous allez traverser l'Atlantique pour rejoindre les Antilles.
Ouais, là c'est beaucoup.
Est-ce qu'il s'est passé, je sens que tu vas me dire qu'il s'est encore passé des galères.
Non, franchement, ça a été assez content là sur cette traversée là, ça s'est bien passé. Mais surtout sur l'état d'esprit, sur ce dont on se lance vraiment dans l'inconnu là, parce que quand on partait avec le bateau, même sans savoir naviguer, etc., on restait en Europe, on avait dans l'absolu la possibilité de mettre le bateau au port et puis de rentrer à la maison. Là, maintenant, quand on quitte les Canaries, qu'on met les voiles et que le vent commence à nous pousser, à nous tracter, et qu'on commence à partir, et qu'au fur et à mesure, la terre disparaît, on se retrouve à trois et on se dit que là c'est parti, on est au milieu, on commence à, à s'aventurer dans l'océan Atlantique qu'on connaît pas. Et ben c'est parti quoi, une nouvelle expérience de fou à trois, et c'est... voilà, ça va être génial.
Et c'est combien de kilomètres Canaries? Alors vous allez où? Martinique, Guadeloupe, vous allez où? C'est quoi votre prochain point dans les Antilles?
Alors nous on fait Canaries jusqu'en Martinique, et je saurais pas te dire en termes de kilomètres exactement, mais par contre ce que je peux te dire c'est que nous on a mis 28 jours. 28 jours à faire cette traversée. On a été.
Vous avez mis 28 jours. Vous avez mis un mois. Ouais. Un mois sur un bateau sans voir personne.
Voilà. Donc après voilà, c'était notre première traversée aussi. Des conditions climatiques dont je t'ai parlé qui étaient un petit peu instables. On a eu pas mal de mauvaises conditions dans le sens où on n'avait pas trop de vent. Donc on a mis quand même beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait pu faire. Mais bon, c'était voilà la première traversée. 28 jours effectivement. En autarcie, en autonomie, avec ben voilà deux potes d'enfance, on apprend à se connaître. Chacun l'a vécu différemment. Voilà, je sais que pour Léo par exemple, le départ a été plus compliqué parce que c'était voilà véritablement aussi ben lâcher ses proches et lâcher aussi la communication avec eux qu'on peut avoir plus facilement avec le téléphone que par l'envoi de quelques mails par le téléphone satellite. C'est un peu plus compliqué. Voilà, et donc on a tous eu des moments où c'était plus compliqué. C'est naturel, c'est humain.
Voilà, s'il y avait un copain qui allait pas bien, tout de suite il y avait les deux autres, ce que je comprends, qui prenaient le lead et qui essayaient de remonter le moral, c'est ça?
Ben en fait, il y a surtout cette notion d'essayer de laisser de l'espace à la personne quand elle est pas dans le bon état d'esprit, qu'elle est pas bien, que voilà, elle se sent pas bien. C'était vraiment voilà. De dire bon ben enfin sans se le dire parce que en un regard on arrivait à se comprendre, on savait dans quel état d'esprit était la personne, et ça c'est la force de notre amitié et le fait qu'on se connaisse depuis qu'on est gamin en fait, hein, tout simplement. Et voilà, ça nous a permis sans parler de voilà d'arriver à faire ce qu'on a fait, et voilà, c'est parce qu'on se connaît bien. Et aujourd'hui si c'était à refaire, il y a peut-être des choses à améliorer de ce côté-là, peut-être mieux l'exprimer à certains moments, mais pour nous, ça a bien fonctionné quand même.
Donc, tu poses l'ancre, vous posez l'ancre, où ça?
Alors, quand on arrive en Martinique, pour refaire un peu quand même l'arrivée, parce que c'est un moment qui est hyper important pour nous, tu t'es en bateau, tu vois, ça fait sur la carte, sur ton petit iPad, tu vois sur la carte que tu es en train de te rapprocher de la Martinique. Et là, tu commences à percevoir la terre au loin. Et ce qui va être assez marquant pour nous, c'est qu'on arrive en fin de journée, donc on a un magnifique coucher de soleil. On a essayé de pêcher pendant toute la traversée de l'Atlantique, ça a pas fonctionné. Et là, on se dit bon, bah, allez, on va tenter quand même au dernier moment. On va mettre la canne à pêche. Et le soir même où on est arrivé, on a pêché un super barracuda qu'on s'est fait. On s'est fait un super repas, coucher du soleil, on sent la terre presque avant de la voir, on sent ces odeurs de barbecue, on sent la fumée au loin, vraiment. Et en fait, quand ça fait 28 jours qu'on est en autarcie et qu'on est un petit peu du coup au milieu de rien, au milieu de l'eau, mais de pas grand chose non plus, le sens, voilà, l'odorat, il est hyper hyper exacerbé. Et dès qu'on sent ces odeurs de fumée, de barbecue, on se dit waouh, faut qu'on accélère, faut qu'on arrive vite, et on va poser l'ancre juste avant le port pour passer notre première nuit en Martinique, mais sans avoir touché pied à terre encore. Et le lendemain matin, on arrivera au port pour décharger quelques affaires, notamment le frigo, pour pas qu'il reste sur le bateau sans surveillance. Puisqu'il y a mes insulines dedans, parce que je suis diabétique, toujours pareil. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une gestion qu'il fallait avoir aussi. Et voilà, le lendemain matin, ben on pose pied à terre et on est les plus heureux du monde, quoi. On vient d'arriver, on a fait notre transatlantique, c'est génial.
Waouh ! Et du coup, ouais. Et est-ce que moi j'ai une question ? On m'a dit que si tu restais trop longtemps en mer, tu pouvais avoir le mal de terre.
Ouais, ça peut arriver.
Est-ce que là, voilà. Toi, ça va? Vous êtes arrivé, vous avez mis le pied sur terre. Ça y est, vous avez crié terre au large, un peu comme on voit là. Je crois qu'ils disent pas ça, mais ils disent un truc comme ça souvent dans les films.
Ouais, c'est à l'horizon.
Ouais. Et ça se passe bien?
Ouais, ça se passe bien. Ça dépend de chacun. On a eu quand même un sas de décompression puisque, comme je te disais, on a passé une nuit au mouillage avant de poser pied à terre. Et donc, les conditions de houle et de gîte se sont calmées. Et du coup, je pense que notre organisme, il a compris que, en fait, l'horloge interne a compris qu'on s'était un peu stabilisé. Le lendemain, quand on a posé pied à terre, c'est vrai que les premiers pas font un petit peu bizarre. Mais après, ça part assez vite. Et le mal de terre, on a pu l'avoir chacun à des moments différents du voyage. Et cette sensation, elle est un peu particulière. Ouais, c'est une sorte de perte d'équilibre, un petit peu comme si... on abuse un peu trop du mojito. C'est un peu la même sensation, mais par contre, ça s'estompe assez vite. Donc, c'est moins gênant que le mal de mer.
D'accord, ok. Et est-ce que vous savez où vous allez dormir? Non, vous dormez pas sur votre bateau, là, quand vous êtes en Martinique. Ça y est, vous savez où vous avez un logement? Vous avez un point de contact? En fait, comment ça se passe?
Avant de commencer l'aventure, on a contacté plein de personnes, mais c'est vrai que avant d'être sur place, il se passe pas grand-chose. Les gens peuvent pas s'engager et dire ok, je vous accueillerai, etc. C'est pas toujours possible. Et puis c'est des personnes qui travaillent aussi, donc elles ont pas nécessairement la vision sur ça. Et donc du coup, quand on arrive, on relance ces contacts. Donc ça nous prend bien une semaine et demie. Et on finit par se mettre sur une plateforme de woofing où on va en fait découvrir Cathy et Eric qui sont un couple d'agriculteurs qui sont installés en Martinique, dans les monts un petit peu, dans les hauteurs, et qui ont une petite exploitation où ils font de l'agritourisme. Donc ils ont une petite exploitation agricole et en même temps ils font du tourisme où ils accueillent les gens pour des brunchs, pour des soirées piscines, etc. Et donc Emilien et Léo, eux, vont commencer par aller vivre là-bas et y travailler avec Laura aussi, une troisième membre de Jibe qui nous rejoignait à différentes escales. Et donc voilà cette
Le woofing, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment en fait tu travailles. Souvent on a l'image des fermes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ouais. Moi c'est ce que j'ai en tête. Tu travailles et en contrepartie tu es logé, nourri et des fois t'es payé par le local, par les personnes qui habitent là-bas. C'est bien ça?
C'est exactement ça, ouais, t'as tout à fait raison, et nous ça a été le cas. Donc il y avait un logement à disposition avec la douche, et c'était 2 repas par jour. Donc un bon petit déj le matin bien bien costaud, souvent des grosses pâtes bolo avant d'aller bosser, et puis le soir c'était pareil, rebelote. C'était le deal en travaillant. Et puis c'était un petit peu particulier de notre côté parce que c'était au moment des fêtes de fin d'année, il y avait Noël, il y avait Nouvel An, donc c'est des moments aussi qui sont très importants en Martinique et dans cette famille là aussi. Et en fait on a eu la chance de pouvoir partager ces moments en famille avec eux, et ça c'était vraiment génial.
Ah, ils vous ont accueilli, parce que oui, vous aussi, bah, pour tout le monde, un peu, Noël, c'est quand même, en général, tu te dis, je vais le passer avec la famille, toi, t'es loin, et eux, vous ont accueilli les bras ouverts en disant, vous faites Noël avec nous, quoi. Vous vous êtes senti intégré à la famille, le temps d'un moment.
Bah ouais, le soir même, on était avec une partie de leur famille du Venezuela, plus des amis, des cousins, de la famille, et une grande tablée où chacun amène quelque chose, et puis il y a des cadeaux pour tout le monde, dans une bonne ambiance, de la musique, petit apéro sympa, et ça voilà, là on se dit ok, on est vraiment dans un voyage, mais il y a quand même cette notion de partage d'humain, et là on fait des rencontres qui sont exceptionnelles et qui, on le sait déjà à ce moment-là, nous marqueront pour toute notre vie.
Ouais. Ah d'accord, donc c'est vraiment chaleureux et tout, ok. Et là du coup, vu que vous travaillez, donc toi, attends, parce que tu m'as dit Léo et Emilien, mais toi, tu fais quoi?
Alors moi, à ce moment-là, il y a ma compagne qui me rejoint en Martinique, et donc je suis en sein de travail.
Ah là 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 là, oui, vous avez trop.
Et ouais, on est
Oui. Vous êtes en couple. Et oui, qui est en couple? Les trois sont en couple.
À ce moment-là, donc effectivement, c'est encore autre chose à gérer en plus. Et donc, quand les compagnes ont la possibilité de nous rejoindre, elles le font. Et du coup, on adapte aussi le travail et les missions en fonction. Donc là, les gars, eux, avaient la possibilité de bosser sur cette exploitation-là. Moi, de mon côté, j'étais avec ma compagne et je travaillais sur d'autres sujets. Mais voilà, le travail de l'association s'arrêtait pas là. Et effectivement, à chaque fois, on trouvait des façons de s'adapter pour que le contenu soit là et que notre partenaire aussi soit content, puisque à la fin, il y a quand même un rapport à rédiger et à rendre à notre partenaire et à rendre visible aussi à toute notre communauté. Donc, il y a quand même cette responsabilité-là. Et puis, c'est l'occasion pour nous de rencontrer plein d'acteurs, puisque voilà, il y a donc une partie qui est avec Cathy et Eric, et puis ensuite je vais faire des interviews de différentes institutions avec Emilien notamment. On va interviewer plusieurs institutions locales, et donc ça vient enrichir notre travail. On va interviewer aussi d'autres agriculteurs pour avoir différents points de vue, et c'est ce qui était vraiment important pour nous, c'est d'avoir un projet où on apprend des autres plutôt que d'arriver avec une posture de « je vais vous montrer comment ça marche », parce que c'est pas du tout la façon dont on est, et on sortait de nos études et on n'a pas grand-chose à leur apprendre, hein. Honnêtement. Voilà, donc, on était plutôt les oreilles bien...
Qu'est-ce que vous avez appris alors?
Bon, on a appris tellement de choses, mais c'est il faut honnêtement aller consulter et être curieux sur notre site internet, jaibe.fr, où il y a en fait escale par escale tout ce qu'on a retenu et les différents travaux qu'on a pu aussi publier, partager sous différentes formes. On a aussi notre chaîne YouTube où on a partagé différents moments. Mais si je dois résumer un petit peu ce qui m'a marqué sur ce tour du monde-là, c'est la fraternité, en fait. La fraternité qu'on peut retrouver avec des personnes qui vont être capables, juste en te croisant une fois dans la rue, de te dire « putain, mais viens manger chez moi ce soir, on va discuter, on va partager un bon moment, on se prend une petite bière ou autre chose ». Enfin, voilà, il y a cette fraternité parce que cette notion de le voyage permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas croisés, et en même temps, c'est génial quand on le fait dans la façon dont nous on a pu le faire, parce qu'on arrive avec des tronches, on a la longue barbe, on voit qu'on est marin, qu'on a vu la mer, et donc du coup les gens nous regardent avec des gros yeux et se posent des questions, et quand on a le sourire et qu'on va aller voir ces gens-là, en général il y a de belles histoires qui en découlent derrière.
D'accord, ouais, à chaque fois ils partagent, vous rentrez dans la vie de quelqu'un en fait, quoi. Mais c'est pour ça, alors j'entends que vous avez découvert plein de choses, mais moi je veux trop savoir, tu vois, genre à un moment donné où tu as fait une découverte sur soit l'agriculture, soit tout ce que les autres sujets, un peu où tu t'es dit waouh, ok, soit là c'est un vrai problème, je savais pas, ou en plus en mode mais attends, mais ça on aurait pu j'ai la solution, mais j'ai déjà entendu une solution dans un autre pays, ou tu vois, des choses comme ça, quoi.
Ouais, ben en fait ce qui est intéressant aussi avec notre voyage, c'est que en fonction des différentes escales qu'on a pu avoir sur les différentes problématiques, les différents sujets qu'on voulait aborder, que ce soit par exemple l'agriculture en Martinique, ensuite on a continué notre trip jusqu'en Nouvelle-Calédonie par exemple, où on a travaillé sur la culture, et en fait des fois du coup en Nouvelle-Calédonie on a eu la chance de pouvoir aussi aller en tribu en Nouvelle-Calédonie avec les tribus Kanak, donc rencontrer des modes de vie qui sont complètement différents, ça fonctionne absolument pas de la même manière que nous, et en fait ces enseignements là qu'on a eu avec l'agriculture, je prends l'exemple des bassins de phytoépuration ou des choses comme ça, et qu'on voit en fait tout simplement qu'on peut le partager, on peut dire à ces gens là mais on a déjà vu ça, allez sur notre site, etc., ou parler à cette personne, elle a plein de choses qui peuvent vous aider, et inversement. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce voyage, c'est que toutes les problématiques rebondissent et résonnent entre elles, quoi.
Non, mais ça, c'est fou. Non, mais ça, parce que c'est-à-dire que, en effet, c'est-à-dire que les Kanaks ont peut-être, eux, un mode de vie qui pourrait solutionner des problématiques qu'ils ont dans les Antilles, mais vu qu'ils ils se parlent pas forcément, c'est des communautés qui vont pas forcément, c'est pas le même tourisme, et puis c'est très loin, hein, quand même. Vous êtes médiateur, en fait. Vous êtes peut-être là en mode, les gars, moi, j'ai vu ça, et en fait, vous, ça pourrait solutionner ça dans votre pays.
Ouais, en fait, c'est plutôt on a appris aux côtés de ces personnes-là des choses intéressantes. Du coup, si vous voulez, vous pouvez, on peut échanger là-dessus. C'est pas dans une posture, et ça c'est hyper important pour nous, c'est que c'est vraiment pas une posture de regarder ce que vous devez faire. On n'est pas du tout dans cette posture-là parce que on n'a rien à leur dire, quoi. Mais c'est juste que voilà, on se dit des fois, on a vu des choses intéressantes, et si vous voulez, on en parle. Voilà, c'est plutôt ça l'approche. Mais du coup, effectivement, ça marche assez bien, quoi.
Et genre en Martinique, genre quand tu dis ils ont des problèmes, quand le thème c'est l'agriculture, quelle était la principale problématique? Tu vois, est-ce qu'ils avaient, je sais pas moi, les ressources de l'eau ou je sais pas?
Ouais, ben tu as raison. Là, il y a notamment la gestion de l'eau qui est hyper importante en Martinique parce que milieu insulaire, donc en fait, on se dit, c'est une île, ils ont aucun problème avec l'eau, etc. Mais en fait, pas du tout. Du coup, il y a plein de rapports, il y a plein de recherches, il y a plein de chercheurs qui s'occupent de ce sujet-là. Et en fait, du coup, il y a plein de sujets comme aussi la gestion du carbone. Mais nous aussi, il y avait aussi la relation entre le producteur et le consommateur. C'est un sujet qu'on trouvait hyper intéressant. Comment est-ce que le consommateur, il se rend compte du travail qu'il y a derrière la production d'un légume, et comment il se rend compte de la différence entre le légume du petit producteur qui habite à quelques kilomètres de chez lui ou la pomme de terre qui vient du Nicaragua. Voilà, il faut qu'il soit capable de faire cette différence, et c'est là où le rapport entre le producteur et le consommateur, il y a des choses à faire. Et en Martinique, il y a des exemples qui sont intéressants. Nous, on a notamment pu parler avec Thomas Lemonnier, qui a une petite production de cacao. Donc lui, en fait, il va récupérer des cabosses, donc du cacao. Et en fait,
les cabosses, c'est les gros trucs de cacao, d'accord?
Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et ensuite, à l'intérieur, t'as plein de petits graines de cacao. Et donc lui, ensuite, il va le faire torréfier, il va ensuite le transformer et en faire un chocolat d'exception martiniquais. Et c'est une filière aujourd'hui qui a très peu de notoriété, mais par contre il y a cette notion de rapport du coup entre ces petits producteurs et les Martiniquais eux-mêmes pour valoriser une agriculture d'exception en fait sur leur territoire qui du coup aussi peut-être moins émettrice en termes de carbone. Puisque c'est un cacao qui sort en fait de quelques kilomètres autour de chez eux, du circuit court, enfin toutes ces choses-là dont on entend bien parler, mais il y a des exemples très concrets et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer par notre rapport.
Ok, alors mais génial, ok, ouais, je comprends mieux, ok. Et du coup après, d'accord, donc vous êtes parti en Nouvelle-Calédonie.
Ouais, alors.
Là, c'était plus sur la culture, donc là, du tribu, donc là, carrément, là, on se met... Donc là, tribu, moi, j'entends lance, j'entends homme à moitié nu, tu vois, j'imagine un peu ça. Est-ce que c'est ça ou pas?
On va dire qu'il y a un peu des deux, mais on a toujours une image peut-être un peu réductrice. Et en fait, c'est assez inspirant sur beaucoup de domaines. Je vais te donner un exemple... sur les tribus Kanak, en tout cas sur ce que nous on a pu constater, ce qu'on nous a raconté, il y a une notion de partage des biens. Donc il y a pas de propriété propre, c'est-à-dire que ta voiture est aussi la voiture de la tribu.
Waouh, OK.
Donc quand tu rentres chez toi du travail, ta voiture, tu la gares, mais en fait n'importe qui peut la prendre et partir avec. Et voilà, mais tu sais pas où est ta voiture.
Mais c'est énorme, c'est-à-dire, mais comment voilà. Ils font? C'est-à-dire que le matin, celui qui travaille en dernier, il a plus de voiture, il risque de pas avoir de voiture. Moi, je serais stressé tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que tu ouvres la porte de ta maison, tu ne sais pas s'il y a une voiture, tu ne sais pas si tu peux aller au travail quand même.
Mais ça peut amener des problèmes parce qu'il y a des personnes, en fait, ça fonctionne bien quand les gens, travaille autour de la tribu, pour la tribu, parce que il y a cette notion de proximité et la voiture, elle reste dans un certain cadre. Mais le truc, c'est que souvent, les tribus en Nouvelle-Calédonie, elles sont en brousse, qui s'appelle, donc c'est quand tout ce qui est en fait tout hors de Nouméa. Et en fait, les personnes, du coup, sont de plus en plus obligées, les personnes de tribu sont de plus en plus obligées de travailler à Nouméa parce que l'emploi se trouve là-bas. Et donc, en fait, quand ils travaillent tous les matins avec des horaires imposés et que le matin, il n'y a pas leur voiture, ça pose de gros problèmes. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des adaptations où, en fait, les gens vont garer leur voiture hors de la tribu parce qu'ils ont peur de ce système-là. Donc, il y a des adaptations entre le monde comme on le connaît et ce fonctionnement de société et eux, leur fonctionnement de tribu qui, en fait, n'est pas nécessairement toujours adaptable à notre mode de vie. C'est pour ça que Emilien a écrit un énorme article sur notre site internet où en fait il vient traiter de la question de la culture en Nouvelle-Calédonie sous différents aspects et c'est hyper intéressant. Je conseille vraiment tous ceux qui nous écoutent d'aller y jeter un coup d'œil parce qu'il y a des choses qui sont ultra intéressantes et je pourrais pas en dire plus que ça parce que c'est tellement vaste comme sujet, il y a trop de choses à dire.
Bah ouais, c'est ça le problème. En plus on a à peu près que une heure malheureusement et en fait vous avez fait tellement de pays et dû voir tellement de trucs et c'est pour ça on va parler des choses les plus marquantes et ceux qui nous écoutent justement iront voir juste vos recherches, vos articles, parce que c'est sûr que vous avez dû voir un truc des choses de malade. Ça, je veux bien y croire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué alors chez les Kanaks?
En fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre vraiment qui m'a marqué. Où en fait, avec Emilien, on était à deux, et puis on s'est dit, on était à Nouméa. On commençait un petit peu à en avoir marre de cette ville et on avait envie de se confronter véritablement au sujet des tribus en y allant par nous-mêmes et en allant rencontrer les membres de ces tribus. Et donc on se rend à la première station de bus et on prend un ticket de bus, le premier au hasard, on sait pas où on va et on se dit on verra bien où ça nous mène, on prend le premier bus et on part. Et donc en montant dans ce bus, on est un petit peu dévisagé parce qu'en fait on ressemble à personne du bus, quoi, tout simplement. Et mais voilà, toujours dans une bonne humeur, bonne ambiance, pas de problème. Et en fait, on arrive à Canala. Et Canala, on a fait, je pense, 2-3 heures de bus. Et on est au milieu de rien, hein, tout simplement. Tout autour, c'est la brousse, donc c'est luxuriant, c'est magnifique, mais c'est un tout petit village. Et en sortant du bus, on rencontre une petite dame et on lui dit, on aimerait aller se présenter au chef de la tribu, lui dire qu'on est dans le village et que on aimerait simplement se présenter. Et donc la personne nous dit attendez, je vous prends en voiture, je vous amène et puis vous discuterez avec lui. Et donc en arrivant là-bas, on tombe sur sa fille et elle nous explique, enfin sur sa fille, sur un membre de sa famille, et elle nous explique c'est pas quelque chose qui se fait parce qu'il faut en fait s'annoncer. Et il faut on peut pas arriver comme ça, dire je suis là, j'ai besoin de voir le chef, ça en fait ça marche pas comme ça. Et donc c'est tous ces trucs là où en fait on n'a pas les codes parce qu'on essaie de faire bien mais on n'a pas tous les codes, on n'a pas tous ces fonctionnements là. Et donc elle nous dit quand même mais
ah oui, il y a tout un process quoi.
Ouais, il y a des process et puis voilà, c'est des modes de fonctionnement qui sont complètement différentes des nôtres. Et donc quand nous on pense bien faire, des fois c'est pas bien vu. Donc pour le coup, on se fait un petit peu petit et on demande à cette personne où est-ce qu'on pourrait dormir pour la nuit, est-ce qu'il y a quelque chose, un hôtel ou quoi, et on dit non, il y a rien, mais par contre il y a une petite mamie qui a rénové deux chambres et voilà, contre un billet elle vous fera dormir. Et donc on est parti là-bas, on a rencontré cette petite mamie et en arrivant là-bas, la dame nous a déposé et elle nous dit j'ai mon copain Joe qui lui est dans la tribu qui est plus au nord et par contre il pourra venir demain vous faire visiter les alentours de Canala quoi. Et donc nous on dit super, trop bien, un Kanak qui va nous faire visiter les environs, c'est génial et tout. Et donc on commence à envoyer des messages en fait à nos proches en disant on est à Canala et tout, c'est trop bien. Et en fait, des amis aux parents d'Emilien lui disent « Mais attention, Canala, vous avez pas regardé sur Internet, c'est l'endroit le plus dangereux en Nouvelle-Calédonie, il se passe que des troubles de fou là-bas. »
Ah, mais j'allais te demander si vous vous étiez senti en insécurité. Ah ouais, d'accord.
Et en fait, pas du tout. Donc c'est ça qui est fou, parce qu'en fait, avec cette démarche d'aller voir les gens, d'aller parler, de se présenter, etc., On a été super bien accueillis. Et Joe, le lendemain, a passé l'intégralité de la journée à nous trimballer en voiture, à nous montrer toutes ces montagnes, nous montrer, quoi, tout simplement. Et ça, c'était un moment génial. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Tu me posais la question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en Nouvelle-Calédonie? C'est cette rencontre avec Joe où, on a pu vraiment échanger avec un Kanak qui nous a, présenté sa maison, il nous a fait rentrer dans sa tribu, il nous a montré le marché noir, il nous a montré plein de trucs, et c'était hyper hyper intéressant.
Et elle est comment sa maison par exemple?
Ben en fait c'est une maison tout à fait traditionnelle, hein. Il y a rien de particulier, hein. C'est une maison comme tu en trouves en France métropolitaine, hein. C'est pareil, hein. C'est juste que c'est le fonctionnement de tribu qui est différent en fait en lui-même, t'as pas c'est pas le maire par exemple, c'est le chef de la tribu, quoi, voilà. Mais par contre il roule en BMW et il a sa maison, il se gare, il y a pas de problème, quoi.
Comment tu communiques avec Joe? En anglais?
Ben écoute, avec Joe, non, en français parce que il parle français. Après il y a plus d'une dizaine de dialectes et de langues locales, mais après il parle français comme la plupart des néo-calédoniens.
Ok. Et combien de temps vous restez en Nouvelle-Calédonie?
Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est notre escale la plus longue et c'est quasiment 2 mois, si je dis pas de bêtises.
Donc là on en est au combien au total depuis la Ciotat?
Alors, au total, depuis la Ciotat, on en est au... Je vais te dire, parce que j'ai une petite liste, hein, et je vais pouvoir te dire exactement, parce que de tête comme ça, je ne saurais pas te dire, mais tac, 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 tac.
Ah bah oui, pas de souci, vous en avez fait plein des trucs, je peux comprendre, t'inquiète.
Donc
pas.
On a fait l'Espagne, le Maroc, les Canaries, la Martinique, le Panama, le Costa Rica, ça nous fait 6 déjà, Ivaoa, Rangiroa, Raiatea, on en est à 9, Suva au Fidji et ensuite la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est notre 11e escale.
Et combien de temps au total là pour l'instant?
Ben là, en Nouvelle-Calédonie, on y arrive le 14 juillet et on est parti le 5 octobre. Donc ça fait déjà un bon moment qu'on est parti.
Donc ouais, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Tu m'as dit qu'on est à où là?
Là, on est le 14 juillet en Nouvelle-Calédonie, on est parti le 5 octobre, donc ça fait plus d'un an.
Ah ouais? Ça fait près d'un an.
Près d'un an,
waouh. Et là, en niveau de fatigue, honnêtement, parce que je sais comment la découverte, c'est exceptionnel, vous devez, voilà, cet effet waouh tout le temps, mais en vrai, juste ce niveau de fatigue, il n'y a pas de confort quand même, faut le rappeler. Est-ce qu'on est toujours dans un épanouissement ou on est quand même dans « ça commence à être compliqué ».
Ben en fait honnêtement, il y a des moments où au départ, comme je te dis, on est porté par cette mission, ce partage, et c'est vrai qu'il y a des moments aussi où on a des coups de mou, parce que c'est normal, on est loin de nos proches, on est loin de nos compagnes, on est loin de nos amis, de notre famille, et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez lourd. Et le fait aussi de toujours être en mouvement, et c'est ce qu'on va chercher dans le voyage, mais que ce soit tout le temps le cas pendant autant de temps, il y a des moments où c'est un peu lourd. Il y a des moments où c'est un peu lourd. Après, on arrive à se recentrer, et la chance qu'on a, c'est qu'on a des missions et un parcours qui font qu'on est tout le temps en activité, on est tout le temps en train de bouger. Et donc, en fait, même si on a un coup de mou, on est obligé de rebondir sur autre chose parce que ça va vite, en fait, à côté. Donc, il faut suivre, il faut toujours être à l'affût. Et du coup, on a le temps de se morfondre, mais pas trop non plus, quoi.
D'accord. Et ma question aussi, qu'est-ce que c'est? Donc là, quand vous n'êtes pas sur terre, quand vous êtes sur la mer, si vous êtes sur le bateau, c'est quoi une journée typique? Parce que là, je me rappelle, moi, de votre première expérience en bateau où vous dormiez carrément, faut le rappeler, par terre. Là, le bateau, ouais. Est-ce qu'il y a des couchages? Est-ce qu'il y a des hamacs? C'est quoi une journée typique aussi? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vous aviez vos rôles chacun? Comment ça se passe? Ouais. Donc, on est le matin, vas-y, tu te lèves à quelle heure?
Ouais, en fait, sur une journée type, en fait, sur le bateau, nos journées, elles sont organisé autour de quarts. Donc c'est des quarts qu'on prend, c'est la responsabilité du coup du bateau. Donc quand on prend notre quart, c'est on prend la responsabilité du bateau pour tant de temps. Donc en fait, il y a deux types de quarts. Il y a les quarts de jour qui se font de 8h du matin à 20h le soir. Et ensuite, il y a les quarts de nuit, donc qui sont à partir de 20h jusqu'à 8h le lendemain. Et donc le jour, on barre pendant 3h. Donc par exemple, de 8h à 11h pour moi. Ensuite, Emilien, il va enchaîner de 11h à 14h. Et ensuite, Léo, lui, va faire 14-17. Et moi, je reprends 17-20. Et après, c'est les quarts de nuit qui commencent. Et les quarts de nuit, eux, ils font 4h, comme je disais. Et donc, ben là, tu fais 8h minuit, minuit 4h, 4h 8h.
Le point de difficulté, c'est qu'il faut tout le temps, toujours, que H24, il y ait au moins minimum une personne qui s'occupe du bateau.
Ouais, donc du coup, comme tu dis, il y a cette responsabilité-là parce qu'il n'y a aucune assistance sur notre bateau. C'est un vieux bateau et on est parti en décidant vraiment de partir sans pilote automatique et sans régulateur d'allure. Et c'est une particularité quand même de faire le tour du monde sans pilote automatique ni régulateur d'allure. Parce que ça oblige à ce que H24, il y ait quelqu'un qui soit à la barre du bateau. Donc que ce soit de jour, de nuit, il y a toujours quelqu'un qui est à la barre du bateau. Voilà. Donc ça, c'est une particularité, mais ça nous a aussi permis, voilà, de progresser quand même assez rapidement, de bien sentir le bateau. Ça a été une volonté d'Emilien de nous responsabiliser avec cette spécificité, parce que quand on est au pilote automatique, on le lance et parfois, il peut y avoir un peu plus de vent ou un peu moins ou machin, et en fait on le sent pas parce que le pilote automatique va le gérer tout seul. Et c'est là où il peut y avoir aussi de la casse sur le bateau. Et donc le fait d'être à la barre et d'être en éveil constant et à vérifier ses paramètres, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus vite et d'être serein sur notre bateau, quoi.
Ok. Et vous vous douchiez, vous aviez des toilettes, enfin les commodités, c'est comment sur un bateau?
Alors sur l'habitat, sur comment est-ce qu'on vit sur ce bateau-là, en fait c'est un espace qui est super restreint parce que notre bateau il fait un petit peu moins de 12 mètres de long. Sur 3,50 m au maximum de large, donc c'est vraiment hyper restreint. Et en gros, il y a deux grands espaces de vie avec une petite cabine à l'arrière, avec deux petites couchettes. Donc ça, c'est à la poupe, c'est là où je dormais, derrière la barre. Et il y a un plus grand espace au milieu qui comprend la cuisine, deux couchettes. Donc là, c'est où dormait Léo. Et encore plus devant au triangle, à la proue du bateau, il y avait Emilien, le capitaine, qui lui avait cet espace. Donc pour Léo, lui qui était au centre, il avait beaucoup plus d'espace parce qu'il avait cette double couchette, mais pas d'intimité et surtout la cuisine collée à sa couchette, ce qui pouvait parfois aussi la nuit faire des bruits avec les épices qui viennent taper entre elles ou les trucs. Donc ça peut être chaque couchette, chaque espace avait ses avantages et ses inconvénients. Pour Emilien, lui à la proue, il avait un problème d'étanchéité avec son hublot. Donc sa fenêtre, et qui faisait que souvent il avait de gros problèmes d'humidité avec ses matelas qui se gorgeaient d'eau. Et donc on imagine que quand on traverse pendant 30 jours et que tous les soirs on va se coucher dans un matelas qui est trempé, c'est pas hyper agréable.
Oh mon Dieu, mais j'ose même pas imaginer. Oh la vache, ok, et toi ?
Et moi pour ma part, j'avais de l'intimité puisque j'étais à l'arrière. Par contre, j'étais à proximité du moteur quand il fonctionnait, donc ça fait beaucoup de bruit. Et même quand il fonctionne pas, il y a aussi la proximité avec tout le gréement du bateau, donc les voiles, les câbles qui tiennent les mâts, les haubans, etc., qui font du bruit. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de bruit. Et quand on est au portant, donc quand le vent pousse le bateau par l'arrière, moi j'avais absolument pas d'air en fait dans ma chambre, ce qui faisait que ça devenait très rapidement un four, quoi. Et quand on traverse le Pacifique pendant 30 jours et qu'on a 30 jours de portant, il fait très 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 chaud et on passe son temps à transpirer, et voilà, c'est en termes d'hygiène, etc., c'est pas dingo.
Non mais c'est fou, moi je me dis que vous étiez vraiment motivés à fond par le projet, et c'est très beau, hein, et ça rend la chose encore plus belle, mais vous êtes des grands malades les gars, mais c'est très beau ce que vous avez fait, mais j'ose pas imaginer. Et les douches et les toilettes par exemple, comment ça se passe?
Ouais, du coup pour les douches c'était assez simple, tu prends un seau, tu le mets dans l'eau et puis tu te le verses sur la tête.
Non Non, non, je te crois pas. Non, ah, si, si. Non, non, mais pause. On parle d'eau salée, du coup.
On parle d'eau salée.
Mais non. Vous aviez pas de douche?
Que des douches à l'eau salée, parce qu'en fait, quand tu pars avec de l'eau douce, t'as un réservoir. Et ce réservoir, il fait que 250 litres. Donc, quand tu pars pour 30 jours, ces 250 litres, ils doivent te servir à boire, mais aussi à faire cuire tes pâtes, ton riz et toute ta nourriture. Donc, c'est 250 litres que tu dois vraiment, vraiment monitorer, gérer. Et tu peux pas te permettre de gaspiller de l'eau avec des douches qui consomment énormément d'eau. Donc, du coup, malheureusement, on le faisait à l'eau salée, mais bon, on s'y habitue. Et c'est sûr qu'en termes d'hygiène, on n'est pas parfait à ce moment-là, mais bon, on a quand même du savon et puis des seaux d'eau glacée parfois, mais bon, ça fonctionne quand même.
Alors, vous êtes courageux, mais je comprends. C'est bien sûr, vous avez priorisé, mais je pense qu'on se rend pas compte. Hein. On parle de ça y est, ça fait plus d'un an que vous êtes qu'on est sur le bateau. Hein, je m'imagine avec vous à se doucher, à pas avoir de confort, à se doucher à l'eau salée, à dormir soit dans des fours, soit dans l'humidité et de conserver cette amitié et chacun, vous dormiez pas, vous faisiez chacun des tours de nuit, des quarts de nuit comme tu m'as dit, impressionnant. Ouais. Non mais déjà chapeau, non, enfin c'est même plus chapeau là, c'est je te tire même pas ma révérence mais beaucoup plus. Ok, et après qu'est-ce qu'on a fait alors après les Kanaks, après la Nouvelle-Calédonie? Alors je sais qu'on peut pas tout faire, enfin parler de tout. Là on va parler des grosses étapes du coup. C'est quoi la prochaine grosse étape?
En fait, il va y avoir deux grosses étapes. Ça va être en gros l'Indonésie où on va suite à la Nouvelle-Calédonie arriver pour travailler sur la biodiversité. Ça va être un nouveau mode de fonctionnement pour notre association, puisqu'il y aura que Léo et Laura qui seront en autonomie sur ce sujet-là, parce qu'avec Emilien, on va nous travailler sur l'article de la Nouvelle-Calédonie, donc on n'aura pas de temps à allouer à la biodiversité en Indonésie, donc c'est Léo et Laura, eux, qui vont le gérer solo, Laura qui nous a rejoint en avion, pour travailler sur ce sujet-là, puisqu'elle a des compétences et une formation en lien avec ce sujet. Et donc à ce moment-là, il y a un nouveau mode de fonctionnement, et puis on arrive à faire des posts de vulgarisation sur Instagram pour parler de ce sujet, de la biodiversité en Indonésie, des spécificités que ça a, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, qu'est-ce que c'est que la biodiversité en Indonésie.
Qu'est-ce que c'est la biodiversité? En une phrase, c'est quoi la biodiversité?
La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant que tu peux retrouver dans un environnement. Donc, on va prendre par exemple l'exemple de la mangrove. La mangrove, tu vas avoir tout ce qui va être les végétaux, mais tu as aussi les poissons, tu vas avoir aussi les espèces volantes, et aussi l'être humain, parce que l'être humain est un animal aussi, donc il fait partie de cette biodiversité. Et donc, c'est comment est-ce que fonctionne tout ce vivant. Qu'est-ce qui est inspirant, comment est-ce qu'on peut se servir de la biodiversité dans la culture par exemple, dans l'agriculture, il y a des choses intéressantes à trouver, et c'est ce qu'ont trouvé Léo et Laura, et ils ont partagé tout ça sur Jibe.
Et c'est quoi le truc le plus fou qu'ils aient trouvé?
Le truc le plus fou qu'ils aient trouvé, je pense que c'est encore une fois les rencontres et les rizières, le fonctionnement des rizières. Parce que c'est bien connu en Indonésie, Bali, le riz, on le voit souvent dans les images, les rizières, et il y a le fonctionnement de Subak, donc c'est un peu comme des coopératives agricoles, et ça c'est expliqué sur notre page Instagram que je vous invite à aller voir. C'est un fonctionnement qui est assez inspirant, et ils en ont fait un réel assez clair et explicite.
Mais genre quoi? Enfin, quand tu me dis, parce que là je comprends pas assez, tu vois, j'ai envie de me mettre en situation. Est-ce qu'il y a des choses qui les ont choquées?
Ouais, sur l'Indonésie, il y a des choses qui sont assez marquantes. Il y a effectivement une pollution, une gestion des déchets avec le tourisme qui est quand même assez catastrophique. Les énormes décharges où ils viennent brûler l'ensemble des déchets produits pour le tourisme. C'est quand même assez impressionnant, c'est quand même assez marquant. Mais on a toujours cet angle avec Jibe d'essayer de montrer ce qui se fait de mieux et les gens qui essaient de porter une vision plus durable, plus positive, plus soutenable. Et donc ces choses-là, on les a en nous, on est capable d'échanger là-dessus. Mais par contre, c'est pas ce qu'on va mettre en avant sur nos réseaux sociaux, parce que c'est pas véritablement ce qui est essentiel selon nous à mettre en avant. Voilà. Donc pour te reprendre sur l'Indonésie, ils ont parlé donc des sous-bacs et après ils ont fait des différents focus avec des réels sur différents types de biodiversité, donc la mangrove, la jungle, voilà. Et donc ils ont pu illustrer ça par des images, des posts Insta, voilà. Comme je disais, que vous pouvez voir sur notre page Instagram.
Ok, d'accord. Donc eux, ça c'était leur part. Et là, tu m'as dit qu'il y avait un autre point important après l'Indonésie, c'est ça ?
Oui, après l'Indonésie, ben si j'accélère un petit peu tout, on passe avec le bateau le détroit de Malacca entre la Malaisie et l'Indonésie. Ensuite, on passe l'océan Indien, on arrive aux Maldives. Des Maldives, ensuite on traverse la mer Rouge et on arrive en Égypte. Et donc là, on s'attaque à notre dernière thématique qui est l'habitat durable. Et en fait, on a la traversée du canal de Suez qui nous amène en Méditerranée. Et beaucoup d'émotions forcément quand on remet le bateau en Méditerranée. Et,
oui.
Et surtout, un nouvel événement, c'est notre moteur qui casse à la sortie du canal de Suez et qui fait qu'on va devoir faire toute la fin de la traversée de la Méditerranée sans moteur. Ce qui fait que ben, quand il n'y a pas de vent, ben, on est à l'arrêt complètement.
Ah ouais, pas d'option B. Là, tu devais attendre, c'est la patience, quoi. Et du coup, avoir quand même assez de réserves de nourriture, je le rappelle.
C'est ça. Toujours pareil, cette gestion de la nourriture, cette gestion de l'eau, des ressources. Mais par contre, il faut aussi être capable d'assurer quand on arrive près des côtes, parce que quand on a le moteur entre guillemets, on a la possibilité de reculer, d'avancer, de faire un peu ce qu'on veut. Et quand on est à la voile et qu'on fait une manœuvre, on est obligé qu'elle soit réussie parce que sinon c'est dramatique.
Et là, est-ce que encore une fois t'as peur ou tu te dis bon attends, vu tout ce qui s'est passé là avant, là toutes les galères, laisse tomber qu'on a enchaîné, mais qu'on a quand même réussi à gérer et à relativiser hein, quand même pas mal, je trouve. Et là, t'es là en mode t'as même, c'est pas que t'as plus peur, mais tu te dis bon bah tout de suite je vais trouver une solution, c'est bon, ou t'as quand même encore un peu cette boule au ventre en disant oh là là c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive encore quoi.
Mais en fait, on a un petit coup de mou en se disant waouh, ça nous tombe encore dessus, putain, c'est pas le bon moment. On a aussi envie d'arriver au bout d'un moment quand même, ça commence à être long le voyage. Et finalement, rapidement, on relativise. Et voilà, on se dit que ben on a fait tout ce chemin et on est arrivé en Méditerranée. Ça a mal commencé avec la mer Méditerranée. Voilà, c'est normal que ça se termine aussi un petit peu compliqué. C'est une mer qui nous aime pas. C'est une mer compliquée. Et donc, en fait, on va se dire qu'on va tout simplement y arriver. Et on se supporte les uns les autres et on se dit, ok, les gars, on va le faire, on va y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a tenu bon et on a réussi le pari, quoi.
Waouh, ok. Et du coup, la next destination ?
Ben après l'Égypte, du coup, on a fait la Grèce, on a fait la Crète. Puis ensuite, on a fait un petit bout d'Italie avec le Stromboli, le volcan de Stromboli. Puis ensuite à Sorrento, à côté de Naples. Et ensuite, on est rentré directement jusqu'à la Ciotat.
Mais attends. Mais genre, quand tu me dis l'habitat, là, ok, là, t'as fait toutes ces destinations. Tu me dis l'habitat, c'est quoi l'habitat ? Qu'est-ce que t'attendais juste ? Ce dernier thème.
Il y a cette spécificité entre ce qu'on voulait faire et ce que le fait de ne plus avoir de moteur nous empêche de faire. Parce que le fait de plus avoir de moteur, ça a aussi impacté nos recherches directement parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller précisément à tel ou tel endroit. On va simplement aux endroits où le vent nous permet d'aller. Donc du coup ça complique quand même les recherches et on se dit il va falloir être astucieux pour arriver à proposer un contenu à la hauteur de ce qu'on a proposé jusque là avec beaucoup plus de difficultés pour être mobile et c'est quand même dommage de pas être mobile sur un tour du monde. Donc on s'est dit qu'en fait on allait mettre en avant un habitat qu'on a rencontré en Égypte qui est le pigeonnier. Donc là c'est pareil, il y a un post sur notre Instagram qui parle du pigeonnier, parce que quand on parle d'habitat, on parle pas d'habitat que pour aussi les humains. Et donc, en fait...
Vous parliez de la faune et de la flore.
Voilà, c'est l'habitat au global. Et donc, on s'est dit que en fait, il y a un super exemple d'habitat qu'on connaît parfaitement, c'est notre bateau. Et sur notre bateau, il y a aussi plein de choses qui sont hyper intéressantes à raconter sur cette gestion, sur cette autonomie, sur cette résilience, sur voilà beaucoup d'aspects qu'on a été obligé de gérer, mais qui peuvent aussi être appliqués à l'habitat tel qu'on le connaît en métropole ou ailleurs.
Et les pigeonniers, c'est-à-dire parce qu'il y avait plein de pigeons?
Ouais.
Pourquoi les pigeonniers?
Le pigeonnier, c'est des énormes tours avec plein de petits trous et des sortes de tiges qui en sortent, où les pigeons viennent se poser et s'y reposer. Et à l'intérieur, en fait, ils s'y retrouvent, ils s'y accouplent. Et en fait, il y a de la fiente aussi, du coup, qui en découle au sol. Et ils s'en servent pour l'agriculture, ils les récupèrent et ça leur sert d'engrais, etc. Voilà.
D'accord, donc en fait, vous savez, alors déjà, ça te fait sortir de ta zone de confort, ce projet quand même qui est extraordinaire. Mais en plus de ça, c'est ça, tu reviens avec plein de connaissances, même tu vois ce que je veux dire, des pigeons, mais en plus qui est lié du coup, qui au thème aussi de l'agriculture où vous avez débuté en Martinique, enfin tout est lié en fait un petit peu. Hein.
Ouais, clairement, il y a, comme je te disais, à chaque fois il y a ces quatre sujets, mais en fait ces quatre sujets rebondissent et c'est ce qui est intéressant. Et puis c'est de toute façon la société en elle-même, parce que voilà, quand notre mission au départ c'est de montrer les modes de vie et techniques d'une société plus soutenable, forcément que les sujets doivent rebondir entre eux, parce que sinon, si c'est soutenable d'un côté mais qu'à côté on fait n'importe quoi, ça peut pas fonctionner non plus, quoi.
Et oui, ben oui, bien sûr. Et d'accord. Et du coup, voilà. Donc, je comprends. C'est que vous adaptez en fait. C'est-à-dire, vous avez plus de moteur. Vous êtes fatigué, vous êtes à bout, vous avez déjà vu énormément de choses et du coup, vous vous adaptez à tout ça. Et à un moment donné, vous vous dites, bon, ça y est, on rentre. Ça fait combien de temps?
Ça fait 19 mois.
Hein. Ça fait 19 mois qu'on est hors de la France.
Ça fait 19 mois et au total, le tour du monde aura duré 599 jours.
Oh là 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 là. 500. Vous aviez prévu combien de jours au début sur le projet, sur le papier?
On avait prévu 20 mois, donc on était à peu près sur ce qu'on avait prévu, donc assez content, comme je te disais, de ce planning qu'on a réussi à tenir. C'était important pour nous et puis aussi pour nos proches, parce que il y a un moment où voilà, ils ont aussi besoin de se projeter, de savoir quand est-ce qu'on va rentrer. Et donc, il y a un moment où il faut donner une date et voilà, la date a été donnée, c'était fin mai. Et on est arrivé le 27 mai 2023. Donc voilà, on a réussi à tenir nos engagements.
Waouh ! Pari tenu ! Qu'est-ce que ça fait, là ? Explosion de saveurs, explosion d'émotions. C'est-à-dire, est-ce que il y a qui ? Tu vois la terre, donc de la Ciotat ?
Ouais.
Et il y a ta famille ? Comment ça se passe ?
Ben on arrive. Alors ça aurait été parfait comme ça, mais on arrive un peu plus tôt. Donc en fait, au final, on va passer une ou deux nuits au mouillage. Et ils arrivent le samedi parce que ben voilà, les proches travaillent, etc. Donc tout le monde peut pas se libérer comme ça. Mais donc le samedi matin, tout le monde est ok. On se prépare, on fait la manœuvre et puis en fait on arrive et on voit nos proches avec des klaxons, des cris, des pleurs et on saute du bateau, on vient les prendre dans les bras et c'est une explosion de saveurs, c'est exceptionnel. Enfin, c'est les émotions sont hyper hyper aiguisés à ce moment-là, on ressent tout, on se sent c'est un petit peu bizarre, on a du mal sur le moment à comprendre vraiment ce qui se passe et petit à petit voilà, on voit les sourires, les parents sèchent les larmes et puis voilà, on commence à discuter, à rigoler et c'est génial, quoi.
Waouh. Déjà bravo les garçons, bravo Moussaillon, je dirais même. Ça me donne des frissons parce que j'imagine même pas après 19 mois de revoir sa famille et puis vous avez pas lâché, quoi. Vous avez pas lâché parce que vous avez enchaîné les galères mais vous avez enchaîné les belles découvertes, les belles rencontres et si pour finir, enfin c'est ce que je pense encore tellement de choses à dire, mais qu'est-ce que t'en ressors? Tu vois ce que je veux dire, c'est ta plus belle découverte ou comment t'es rentré après 19 mois? Est-ce que t'es changé? Un nouvel homme? Un nouveau Lucas?
En fait, c'est une question qu'on m'a pas mal posée et c'est une question pour laquelle en fait j'ai encore du mal à répondre parce que je pense que j'ai encore aujourd'hui la tête dans les nuages et j'imagine que les personnes qui sont les plus à même de répondre à ça, c'est mes proches en fait, parce que c'est vraiment eux qui voient la différence entre Lucas 1, Lucas 2, s'il y a deux personnes différentes, je pense pas. Mais j'ai grandi, j'ai pris en maturité, voilà, je suis parti, j'étais super jeune, voilà, aujourd'hui j'ai 24 ans, je suis quand même jeune et j'ai une expérience derrière moi extraordinaire sur le sens véritable du terme. Voilà, la chance d'avoir pu rencontrer des personnes hyper ouvertes, passionnées, intéressantes, dans plein de milieux différents, des milieux dans lesquels je me serais pas forcément aventuré. Si je dois mettre un mot sur les rencontres et sur ce que je retiens de ce tour du monde, c'est la fraternité, encore une fois. Je le martèle, mais c'est vraiment ça, quoi. Dans le monde, dans les rencontres qu'on a eues, par rapport à l'approche qu'on avait, on a ressenti énormément de fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, j'aimerais et je pense que je ferai en sorte, dans tous les cas, d'être encore plus fraternel avec mes proches, mais aussi avec des personnes, voilà, que je rencontre, et d'essayer d'être le plus ouvert possible.
Et mais attends, là, j'allais dire. Ok, merci, mais pose le bateau. Il est où le bateau maintenant ?
Écoute, c'est une super question parce que le bateau, on l'a fait gagner.
Comment ça ?
Parce que, comme je te disais au départ, ce bateau-là, on nous l'a donné. Et donc, on s'est dit, on va pas vouloir de toute façon faire de l'argent. Faut pas que ce soit lucratif, c'est pas l'intérêt de toute façon. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est que ce bateau, il continue d'avoir cette histoire. Cette mission qui est de servir des projets associatifs, des projets qui vont dans le bon sens. Et donc on a fait un grand concours qui aura duré un petit bout de temps, et au final on a sélectionné un projet qui s'appelle Norcéou, et qui est une association, en fait, qui fait partie de l'association Traverse, et qui va avoir pour objectif d'insérer des personnes issus de parcours migratoires autour de ce bateau, donc par des chantiers participatifs, mais aussi par de la navigation à la voile en Méditerranée, puis ensuite sur de plus gros voyages. Et donc voilà, cette association là a récupéré le bateau déjà, et voilà, maintenant elle travaille à continuer cette belle histoire et faire en sorte que Naudi continue de véhiculer des belles valeurs et de belles missions.
Waouh, d'accord, donc il continue à naviguer pour perpétuer justement tous ces beaux projets. Mais c'est magnifique, Lucas. Vous êtes franchement les personnes une des personnes qui m'ont le plus inspiré, moi, pendant quand je vous ai croisé à Bali. Et merci beaucoup de nous avoir retranscrit tout ça. J'espère que ça montre à tout le monde que tout est possible. Et en plus, entre copains, c'est encore mieux quand même. Et encore une fois, bravo les garçons. Franchement, bravo.
Ben, merci à toi, Ariane. C'était un plaisir de pouvoir échanger là-dessus.
Bisous, Lucas.
Allez, ciao.
Et avant de partir, si t'as aimé cet épisode, que ça t'a fait voyager, donner de la motivation, de l'inspiration, prends 30 secondes s'il te plaît pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aiderait beaucoup pour développer la visibilité du podcast, et puis aussi ça fait du bien et puis ça motive à continuer. Donc si tu l'as pas déjà fait, prends 30 secondes pour laisser 5 étoiles, ça serait vraiment génial. Merci d'avance.